1940, dans une nouvelle intitulée « Raison », une histoire de robot qui se met à philosopher en exécutant le simple programme qui le compose, que j'invente pour décrire ces cerveaux le terme de cerveau positronique. Je ne pense pas, hélas, à les appeler ordinateurs, car les ordinateurs n'ont à ce moment-là pas encore été inventés. Je frôle davantage la cible lorsque je comprends que si l'on veut construire des robots ordinateurs, il faudra développer une immense branche de la technologie. Je nomme alors cette science la robotique. C'est à la fin des années 50 qu'Unimation Incorporation devient la première firme à produire des robots industriels. Elle est fondée par Joseph F. Engelberger. Et si l'on en croit ses propres déclarations, il commence à s'intéresser aux robots dans les années 40, en lisant les histoires écrites par son condisciple de Columbia, un certain Isaac Asimov. Dieu tout-puissant. Voyez-vous, à l'époque, je n'ai pas de grandes ambitions en écrivant ces histoires de robots. J'espère simplement les vendre à des magazines afin de récolter les quelques centaines de dollars nécessaires à la poursuite de mes études. Mais sans le savoir, je donne donc le coup d'envoi d'une chaîne d'événements qui aboutissent à une profonde transformation de notre monde. Surtout, c'est dans Cercle vicieux, une nouvelle qui met en scène un robot envoyé sur Mercure pour y prélever du sélénium et qui ne se comporte pas comme prévu, que j'expose pour la première fois trois lois de la robotique.
A robot must obey all human orders, except where those orders come in conflict with the first law. Third law. A robot must protect itself so long as doing so does not conflict with the first two laws.
Je n'envisage pas mes livres comme des prophéties, mais comme des scénarios possibles pour l'histoire de l'humanité. En parcourant mes écrits, vous pouvez donc me voir prendre différents points de vue sur des problèmes moraux ou éthiques. Je veux présenter les pièces du dossier dans chacun des scénarios. Je ne donne pas de réponse, je pose les problèmes en anticipant tous les possibles. C'est au lecteur de faire son choix. Par exemple, devons-nous, pour notre sécurité ou notre confort, nous en remettre aux machines au prix de notre liberté? La découverte de nouvelles sciences demande à l'humanité de repenser les frontières de ce qu'il juge être bon. Alors, contrôle et sécurité, ou liberté et danger? Dans « Conflit évitable », je choisis « Contrôle et sécurité ». J'ai décrit une société où ce sont les ordinateurs qui régulent l'économie mondiale dans le but d'éviter les hostilités et de maintenir l'humanité, quitte à en sacrifier une partie de ses membres. Dans « La fin de l'éternité », j'opte pour la liberté et ses dangers. Dans ce livre, les humains décident, grâce à la découverte de la science du voyage dans le temps, de modifier le cours du passé en évitant toutes les guerres et les catastrophes, mais sans en maîtriser les conséquences dramatiques à long terme pour l'espèce. Dans la dernière question, l'ordinateur devient, au fil des millénaires, toujours plus élaboré, car chaque ordinateur conçoit son propre successeur. Successeur qui le dépasse à chaque fois, jusqu'à ce qu'à la fin il soit devenu, au pied de la lettre, Dieu. De toutes celles que j'ai écrites, c'est mon histoire préférée. Alors que dans « L'homme bicentenaire », un livre trois fois plus volumineux que la dernière question, mais qui ne couvre que deux siècles d'histoire, je décris les étapes par lesquelles l'ordinateur accède non pas à la divinité, mais à quelque chose qui nous touche plus intimement, l'humanité. Après avoir été un cerveau à l'intérieur d'un robot, l'ordinateur acquiert petit à petit une apparence et un comportement complètement humains. Je considère en effet que si les robots se rapprochaient des êtres humains, et inversement les humains des robots, en ayant toujours plus recours à des organes artificiels, ils pourraient éventuellement se rencontrer. Et quand les gens auront face à eux une créature hybride entre le métal et l'organique, ils se demanderont sans doute ce qui distingue encore l'homme de la machine. Eh bien, je crois que la solution à ce problème serait tout simplement « on s'en fiche ». Tout au long de l'histoire, les peuples se méfient du progrès et de la connaissance. Dans mes livres, vous trouverez régulièrement des affrontements entre partisans de la confiance aveugle et ceux du rejet absolu face aux nouvelles technologies. Et si on remonte au premier mythe, même dans le conte d'Adam et Ève, le grand crime est de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et les gens ont toujours le sentiment que cette envie de savoir plus qu'il ne faut est mauvaise. En fin de compte, toutes les inventions sont potentiellement dangereuses. La découverte du feu permet de faire la cuisine et provoque des incendies. La découverte de la boussole facilite la navigation et détruit les civilisations précolombiennes. Les progrès médicaux sauvent des millions de vies humaines et aggravent le problème de l'explosion démographique. Et maintenant, nous voici à l'ère de l'ordinateur. Est-ce qu'il s'acquittera de notre travail et nous laissera sommeiller dans une torpeur permanente? Ou bien est-ce qu'il nous libérera des tâches indignes de l'esprit humain pour affranchir notre créativité? Ce que j'essaye de vous dire, c'est que chaque époque apporte ses découvertes avec ses progrès et ses dangers. Il y a une différence notable entre la science-fiction de la société des années 50 et celle des années 70. Le danger pour l'humanité n'est plus militaire. Vous n'avez plus d'histoire d'invasion interplanétaire ou de guerre scientifique entre des détenteurs de la bombe atomique. Au lieu de cela, maintenant, nous voyons apparaître un danger d'un nouveau genre. Le danger écologique. Le monde du futur est un monde surpeuplé, un monde surpollué et en manque de ressources, en proie à toutes sortes de tensions. Nous avons atteint ce moment de l'histoire humaine où les fautes sont si lourdes de conséquences et notre marge d'erreur si faible que nous ne pouvons plus nous croire capables de les corriger. Pour choisir parmi les différents chemins qui s'offrent à nous, nous avons à prévoir. L'humanité n'a pas les moyens de gaspiller ses ressources financières et affectives dans d'interminables conflits dépourvus de sens. Selon moi, nous devons nous unir pour résoudre les problèmes communs à tous les habitants de la Terre. Je crois à la méthode scientifique et au modèle de la raison comme moyen d'appréhender le monde naturel. La science ne prône pas la vérité absolue, mais au contraire la remise en question. Elle est un mécanisme, une façon d'améliorer notre connaissance de la nature. Comme je vous le disais, je ne crois pas à la fable du savant fou. Au contraire, je pense que les scientifiques sont ceux qui connaissent le mieux les dangers de la science et que l'humanité gagnerait à les écouter davantage. Aujourd'hui, la futurologie occupe une place de premier plan en politique, en économie ou dans les affaires militaires. Et les écrivains de science-fiction ont l'attention de tous ceux qui ont pour projet d'orienter l'avenir du monde. C'est donc faire preuve de snobisme que de mépriser la science-fiction en citant comme repoussoir les versions les plus enfantines produites par Hollywood. Refuser de considérer le pouvoir de la science-fiction, c'est refuser un allié décisif face au culte de l'ignorance et à la prolifération de ce que j'appelle les pseudo-sciences. Je ne pense pas qu'il y ait un seul et inévitable avenir, gravé sur du saphir dans les archives du ciel, que l'humanité soit destinée à vivre seconde après seconde pour l'éternité. Selon moi, il y a au contraire d'innombrables futurs possibles. Et si nous voulons survivre, ce que j'appelle la science-fiction attitude est essentiel. La grande valeur de la science-fiction réside dans le fait qu'elle permet la spéculation et la rend respectable. somme, l'écrivain peut sauter par-dessus les gouffres qui nous séparent d'un monde encore illisible. Plus que le scientifique, il a la liberté de spéculer dans les directions qui pourraient paraître les plus étranges. Comme je vous le disais, je ne suis plus là à l'heure où vous m'écoutez. Mais je n'ai aucun regret à l'idée de ne pas voir se mettre en place les futurs possibles. Car comme le héros de Fondation, Harry Seldon, à la fin de sa vie, je peux contempler mon œuvre tout autour de moi et cela me console. J'ai étudié, imaginé et dépeint bien des avenirs éventuels. Alors c'est un peu comme si je les avais personnellement connus. Mon message est que la science et les nouvelles technologies, si elles sont bien orientées, sont capables de résoudre les graves problèmes qui se posent à vous aujourd'hui et qu'elles peuvent aussi bien anéantir l'humanité. C'est pourquoi je pense que les jeunes générations ont une mission, acquérir les connaissances qui leur permettront de peser sur l'utilisation qui sera faite de ces technologies. Et pour cela, nous, écrivains de science-fiction, plus que quiconque peut-être, pouvons les aider à regarder vers l'avenir. Car nos œuvres ressassent inlassablement la même question.
Où allons-nous ? Où allons-nous ?